Bon, bah je commence déjà par remercier les collègues promus pour leur invitation. Donc, ne vous laissez pas effrayer par le titre un peu pompeux du propos. Je vais essayer d'être aussi clair que possible. Et je vais d'abord commencer par un petit aperçu historique, avant de rentrer dans les débats philosophiques proprement dit. Donc, avant la postmodernité, je vais commencer déjà par donner quelques éléments sur le rapport de la modernité à la loi et à la norme. Un des traits caractéristiques de la modernité, c'est, on pourrait dire, l'instauration d'un rapport rationnel et critique à l'ensemble des lois et des normes héritées, l'ensemble des lois et des normes qui ont été transmises par les générations antérieures, qu'elles soient de nature traditionnelle, ces lois et ces normes, qu'elles soient de nature traditionnelle, religieuse ou politique. Historiquement, la modernité se caractérise donc aussi, dès l'origine, c'est-à-dire dès les premiers humanistes, comme une contestation des interdits auxquels on pose la question de leur fondation en raison. C'est-à-dire une contestation des interdits religieux, d'abord, qui entravent l'analyse méthodique des phénomènes naturels et l'examen rationnel des moyens et des fins de la vie humaine. En somme, une contestation qui vise avant tout la liberté de penser. Mais aussi une contestation des interdits reçus de la tradition, par exemple les superstitions, un grand thème de la critique portée par les encyclopédistes au siècle des Lumières, ou encore remise en cause de l'autorité conférée à certaines catégories de population en fonction de leur rôle symbolique. Et pour citer deux exemples, le forgeron dans les sociétés traditionnelles, comme figure de pouvoir et d'autorité, ou dans les sociétés d'ancien régime en Occident, l'aïeul, le père, le mari. Et vous remarquerez que c'est une contestation des normes qui est encore en cours aujourd'hui, notamment dans les appareils juridiques. Cette contestation des normes sociales héritées, et j'insiste bien sur le fait que ce sont les normes sociales héritées qui sont contestées, culmine bien sûr dans la remise en question de l'organisation politique de la communauté humaine, c'est-à-dire dans une critique de la monarchie, l'ébauche du projet républicain, puis la redécouverte du projet démocratique, d'abord dans les communes du nord de l'Italie à la Renaissance, puis progressivement à travers les révolutions anglaises et françaises, et le cycle démocratique qu'elles ouvrent en Europe au XIXe et au XXe siècle. Pour autant, les interdits ne disparaissent pas avec ce courant de réexamen radical des normes qui est le propre de l'époque moderne en Europe. En fait, ces interdits sont réévalués et reformulés dans le sens d'une autolimitation de la société, une autolimitation sur le plan moral, sur le plan politique, etc., qui est aussi une autolimitation décidée par et pour la collectivité, à la différence des normes et des interdits qui prévalaient dans les sociétés traditionnelles. Autolimitation décidée par la collectivité, d'abord, dans le sens où elle implique la participation la plus large possible de la population à la discussion démocratique sur les lois et les interdits, ce qui permet en retour leur acceptation par cette population. Et donc on a là toute la question du consentement, qui jadis était le résultat d'un rapport de force producteur d'obéissance, alors qu'aujourd'hui le rapport de force, s'il n'a pas disparu, il ne faut pas non plus croire aux fables de la démocratie représentative, ce rapport de force est désormais tempéré par la reconnaissance de droits imprescriptibles, qui donne au régime démocratique sa légitimité propre. Donc je disais autolimitation décidée par la collectivité et autolimitation décidée pour la collectivité, parce que à travers l'acte de position d'une norme et donc d'un interdit, le collectif, à l'époque moderne, repousse, met à l'écart, conjure ceux qui le menacent. Le caractère répréhensible de l'injure publique, de la diffamation, de l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne, ou même, a fortiori, l'interdiction morale, avant même qu'elle soit légale, du meurtre, sont là pour conjurer le danger de vengeance et de guerre civile qui menace toute société. Je donne là deux exemples parmi d'autres. Toute la difficulté du régime démocratique et des sociétés modernes en général réside donc dans le caractère perpétuellement discutable, modifiable, reconfigurable des lois et des décisions qui y sont prises, dans la mesure où la possibilité de l'examen critique reste toujours ouverte. Car si elle n'est pas présente dans la loi, cette possibilité du réexamen est instituée dans l'imaginaire social de l'époque, dans celui qu'on partage tous, du fait d'un enracinement culturel de plusieurs siècles de lutte contre l'emprise de la religion, des traditions, etc., et du fait aussi de la formation au sein de l'espace public d'un sens commun, bon, qui certes est fréquemment déficient, qui est fréquemment pris en défaut, mais dont le principe n'est quasiment jamais remis en cause. La démocratie est tout particulièrement le régime où rien n'est jamais garanti, où tout est toujours possiblement soumis à rediscussion. Elle suppose en effet une activité politique et intellectuelle permanente des individus associés, des masses, qui ne peuvent alors s'en remettre qu'à elles-mêmes au sujet de leur liberté. Autrement dit, la démocratie est le régime de l'équilibre précaire entre les interdits et les libertés. Mais c'est précisément cet équilibre précaire des libertés et des interdits qui s'est vu bousculer dans les sociétés postmodernes, au sens où cet équilibre, ce compromis, a été pris en étau entre deux processus convergents. D'une part, ce sera le premier point que je développerai, le développement d'un rapport de distanciation ironique aux normes éthiques ou politiques, voire une critique directe de ces normes comme intrinsèquement liberticides. Et deuxièmement, deuxième processus, qui est, on pourrait dire, la deuxième mâchoire de l'étau, une obsolescence concrète des normes, sous l'effet de mutations sociales profondes, qui leur substitue un nouveau système de normes, ou un nouveau système normatif, qui est constitué pour l'essentiel de normes que je qualifierais de techno-juridiques. Je vais expliquer après qu'est-ce que ça veut dire. Ces normes techno-juridiques tendent à remplacer le politique, l'auto-institution de la collectivité, le fait qu'elle se choisit à elle-même les formes et les moyens de son institution, par une régulation qui est purement pragmatique, purement fonctionnelle, et qui vise uniquement l'efficacité, le rendement et la performance. Et là aussi, je reviendrai un peu plus là-dessus, je développerai un peu plus, j'essaierai de clarifier tout à l'heure. Donc abordons chacun de ces deux phénomènes. Tout d'abord, le développement d'un rapport de distanciation ironique aux normes éthiques et politiques dans les sociétés postmodernes. Sur le plan culturel, ou si on veut utiliser un grand mot épistémologique, je veux dire qui a trait à l'organisation du savoir, à comment il se construit, la postmodernité se singularise par un mouvement de déconstruction des grands idéaux et de ce que le philosophe Jean-François Lyotard a appelé les grands récits de la modernité. Les grands récits, c'est quoi? Et ces idéaux, c'était, ou c'est encore pour certains, l'esprit de tolérance, la recherche de la vérité, le progrès moral de l'humanité, une certaine civilisation des mœurs, voire la disparition possible de toutes les formes d'oppression. Ces idéaux propres à la modernité, les postmodernes que nous sommes, tous d'une manière ou d'une autre, ne peuvent qu'adopter vis-à-vis d'eux une posture ironique ou désenchantée. C'est-à-dire que tout le monde y aspire, tout le monde les revendique encore en un sens, mais en même temps tout le monde a perdu espoir vis-à-vis d'eux, tout le monde a perdu, on pourrait dire plus justement, la foi en eux, au regard des catastrophes du XXe siècle que sont les deux guerres mondiales, la mise en œuvre de tous les moyens scientifiques et techniques d'une extermination de masse. Auschwitz et Hiroshima, pour citer deux symboles. Donc, rapport ironique, distancié, désenchanté à la société, aux données historiques. Et dans la culture de masse, cette ironie et ce désenchantement à l'égard des valeurs humanistes et de l'héritage historique occidental, voire tout simplement à l'égard de tout le donné social, c'est-à-dire à l'égard de tout phénomène social ou culturel, cette ironie, ce désenchantement se mue en une dérision et un cynisme généralisé, qui sont aujourd'hui omniprésents dans la culture de masse. Dans les sciences sociales, pour quitter un peu cette culture de masse, l'esprit de déconstruction ouvre sur ce que certains ont décrit comme un relativisme, et qu'il serait plus juste de nommer un pluralisme, un perspectivisme, au nom duquel chaque point de vue possède une valeur en soi, indépendamment de son coefficient de vérité. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est en fait la richesse du point de vue qui s'exprime de manière complètement subjective. Et c'est ce que le sociologue postmoderne Michel Maffesoli, qui reprend Max Weber en fait dans cette expression, a appelé un polythéisme des valeurs. C'est-à-dire une coexistence sur un même niveau de tout un ensemble de valeurs situées à chaque fois de manière subjective. Il n'y a plus de recherche d'une universalité des valeurs ou des normes. Quoi qu'il en soit, dans tous les domaines, que ce soit la culture de masse, les sciences sociales, on pourrait dire l'art contemporain, on pourrait prendre un ensemble d'exemples, un rapport immédiat ou organique au premier degré, ou un rapport innocent aux données sociales et à notre héritage historique, est devenu quasiment impossible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est compris avant tout comme une construction sociale, ou comme un grand récit, ou comme encore un simulacre. Et donc, en un sens, tout est toujours suspecté de recouvrir une tromperie quelconque. Aucun phénomène social ou culturel ne semble posséder suffisamment de consistance pour mériter du crédit ou de l'adhésion. La seule possibilité qu'ouvre la société postmoderne à ses représentants, à ses membres, est donc de faire varier les perspectives et les points de vue à volonté, de jouer avec les différentes représentations, avec les différentes visions du monde, les différentes grilles d'interprétation qui se partagent le marché des idées et des sensibilités. C'est la condition dans laquelle on vit tous d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'on constate aussi dans le domaine des lois et des normes qui régissent les comportements sociaux actuels. Donc je reviens un peu plus au cœur du sujet de la journée. Contrairement à l'époque où la personne dépositaire de l'autorité institutionnelle assumait le rôle de dire et de faire respecter la norme, tandis que le gouverné avait le choix entre l'obéissance ou la transgression, dans les temps postmodernes qui sont les nôtres, aucun des deux, ni le gouvernant ni le gouverné, ne croit plus réellement et intimement à cette norme, ni même à sa légitimité pleine et entière. J'insiste sur pleine et entière. Celui ou celle qui est chargé de l'énoncer ou de la rappeler n'est plus complètement convaincu de son importance, et il répugne à poser des limites ou des interdits, à faire acte d'autorité. Et celui en face qui devait se soumettre à la norme essaye au contraire de la contourner, de rechercher des accommodements. En somme, il négocie une application personnelle, spécifique, de la norme pour son propre compte. Je pense que c'est des choses que tout le monde peut constater dans son vécu au quotidien, voire même dans son propre comportement. Donc si on parle de normes juridiques, c'est ce que le juriste et psychanalyste Pierre Legendre a appelé finalement une reféodalisation du droit, c'est-à-dire la négociation de droits spécifiques pour des personnes et des communautés définies, là où le droit moderne, qui était au contraire basé sur un principe d'universalité et d'isonomie, en fait isonomie ça veut dire que la même loi pour tous, en fait tous égaux devant la loi, donc le droit moderne réservait à la jurisprudence le soin de se prononcer sur les cas particuliers. Aujourd'hui, tout le monde devient un cas particulier, ou en tout cas tout le monde négocie, ou essaye de passer transaction en vue de se constituer soi-même un cas spécifique au regard de la loi. De la loi ou de la norme, pour parler en général. Or, vous remarquerez que aussi bien la répugnance du dépositaire de la norme à rappeler l'existence d'interdits que le jeu de contournement du gouverné à l'égard de ces interdits, tous deux laissent la norme intacte en court-circuitant simplement certaines de ses applications concrètes. Donc pour le dire autrement, en régime postmoderne, la norme, l'interdit, ne sont plus contestés dans leur fondement, dans leur pertinence ou dans leur rationalité. Dans les situations les plus critiques, la norme est uniquement contestée non pas du point de vue universel de sa rationalité, mais du point de vue de son inadaptation aux intérêts spécifiques d'un groupe social particulier. Au vu de cet affaiblissement de la volonté de rappeler la norme aussi bien que de la capacité à la remettre en discussion de façon rationnelle, on peut donc parler, dans une certaine mesure, d'une obsolescence de la norme traditionnelle, éthico-politique, dans sa visée rationnelle et universaliste. Donc une obsolescence aussi de l'interdit dans sa dimension normative classique. Et pourtant, cette obsolescence de la norme dans les sociétés postmodernes ne doit pas cacher que ces sociétés, les sociétés dans lesquelles nous vivons, sont aussi des sociétés qui sont normalisées comme jamais. Et pour quelle raison ? Parce qu'en fait, ces sociétés, les sociétés contemporaines, ont remplacé les anciennes normes éthico-politiques par des normes à visée uniquement pratique ou pragmatique. Et je vais expliquer ça tout de suite, c'est en fait la deuxième mâchoire de l'étau dont j'ai parlé tout à l'heure. Du fait des mutations sociales et sociétales qui sont intervenues depuis les années 70, on assiste à l'apparition d'un nouveau type de normes que j'appelle normes techno-juridiques, enfin je suis pas le seul, hein. je me réfère à plusieurs intellectuels dont je vais citer les noms tout à l'heure, des normes techno-juridiques que je vais maintenant essayer d'analyser dans leur double composante, donc technique et juridique. Premièrement, normes techniques, qui se substituent donc aux anciennes lois, règles et normes éthico-politiques. Ces normes sont, on pourrait dire, un phénomène propre à la société actuelle en tant que qu'elle est une société bureaucratique. Alors ça peut paraître surprenant de qualifier la société actuelle de bureaucratique, on pense plutôt à l'URSS de Staline. Dans les faits, si on s'intéresse un peu à la sociologie, à la sociologie classique, notamment Max Weber, contrairement à ce que prétendent la plupart des auteurs libéraux, qui veulent que le capitalisme, le règne du marché et la libre entreprise se distinguent par son absence de bureaucratie, la société capitaliste et industrielle est en fait la société bureaucratique par excellence. D'une part, comme l'avait déjà montré Max Weber, donc dès la fin du XIXe siècle, toute entreprise capitaliste sécrète une bureaucratie qui est capable de fixer, de maintenir et de faire respecter ses normes de production. Donc l'entreprise moderne est en elle-même une bureaucratie, c'est sa nature intrinsèque. D'autre part, l'accent qui est mis au sein du capitalisme sur la consommation des marchandises à partir de l'après-guerre a été le synonyme d'une croissance des appareils d'administration bureaucratique de la consommation dans l'entreprise, via le marketing, le management, etc. Et en même temps, hors de l'entreprise, par exemple, on en parlait tout à l'heure avec Marie-France, dans les bureaucraties qui fixent et vérifient les normes des prix, des produits vendus, du respect de la santé publique, par exemple la taille des sardines qui doivent être pêchées dans l'Atlantique ou autre. Donc tout ça, c'est les normes techniques comme phénomène propre aux sociétés modernes, contemporaines, en fait, plus exactement, en tant que société bureaucratique. Deuxièmement, j'ai parlé de normes techno-juridiques, donc maintenant, intéressons-nous un peu à la dimension juridique. Dans les conditions que j'ai décrites, le droit devient purement et simplement la traduction idéologique des normes techniques. Comme l'avaient établi les penseurs de l'école de Francfort, dans les années 30-40, dans le capitalisme administré, le système des normes juridiques ne renvoie plus à une quelconque justice, mais tend uniquement à l'efficacité et à des formes de régulation pure. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'idéal transcendant, si vous voulez, qui permet de fixer un critère ou un étalon au droit. En fait, le droit s'auto-régule en fonction des nécessités techniques du développement de la société contemporaine. Et donc on est ici dans le règne de la raison instrumentale, c'est-à-dire pas d'une raison morale qui se fait en fonction de fins éthiques, mais purement instrumentale, qui se développe uniquement en fonction de critères techniques. Alors que la raison juridique, à l'époque moderne, s'était donnée pour idéal d'être l'instrument de la compréhension et de la détermination des fins morales qui sont assignées à l'être humain, il ne s'agit plus aujourd'hui que de vérifier et de sanctionner la correction des conduites humaines rapportées à des critères qui sont établis par la loi. Autrement dit, le rapport à la loi est devenu purement procédural. Bon, j'espère que c'est pas trop abscon. Face à cette situation, et face à l'apologie postmoderne de la déconstruction des normes, est apparue dans les deux dernières décennies, grosso modo, une génération de penseurs qui ont critiqué en profondeur les orientations de la société actuelle. C'est-à-dire que face à tout un tas de penseurs, dont j'en ai cité certains, Maffesoli, Lyotard, on pourrait penser par exemple à Gilles Lipovetsky, qui défendent en fait la nature émancipatrice de cette société postmoderne. Donc d'autres penseurs sont apparus qui, eux, ont critiqué les tendances de fond de la postmodernité, c'est-à-dire le développement technologique permanent, le libéralisme économique et l'apologie du laisser-faire, le culte de la performance et de l'illimitation, de la démesure, on pourrait dire, de la transgression de toutes les limites, de toutes les bornes, de tous les interdits. Pour citer juste quelques noms, et je vais essayer de faire un pack, en fait, de présenter leurs idées comme un ensemble, même si dans le détail il y a des distinctions à faire entre chacun de ces auteurs. Les auteurs auxquels je me réfère là sont des philosophes comme Cornelius Castoriadis, Jean-Claude Michéa, Michela Marzano, François Flau, ou des sociologues comme Michel Freytag ou Alain Ehrenberg. Et il y a même dans le lot des psychanalystes comme Daniel Robert Dufour ou des juristes comme Pierre Legendre, dont j'ai déjà dit un mot tout à l'heure. Et à l'étranger, bon, c'est pas une grille d'interprétation purement franco-française, on a aussi des penseurs comme Zygmunt Bauman, Christopher Lasch ou Richard Sennett qui ont essayé de développer une critique de la postmodernité qui va dans le même sens. Alors tous ces penseurs que j'ai évoqués, sur lesquels on pourra revenir si vous voulez dans les questions ou dans les discussions dans le reste de la journée, ils ont essayé de se livrer à deux opérations, de poser deux questions, une question qu'on pourrait qualifier de généalogique, et une autre qu'on pourrait qualifier de programmatique. Question généalogique, c'est comment en est-on arrivé là, et la question programmatique, c'est que faire à partir de là. Donc je commence par la question généalogique. comment en est-on arrivé là ? À côté des mutations économiques et technologiques des années d'après-guerre en France, l'émergence d'une société de consommation, le passage à une économie de service, ces penseurs ont été conduits à mettre en lumière le rôle déterminant de mai 68 en tant qu'événement. Et aux États-Unis, ce sera la même chose, en fait, le développement des mouvements des années 70, des mouvements de contestataires. Alors, il ne faut pas cacher que ce travail est, pour ces penseurs-là, en quelque sorte un travail de deuil, ou en tout cas une entreprise douloureuse, puisque un bon nombre d'entre eux sont en fait des anciens 68ards. Donc c'est en fait une sorte d'autocritique à laquelle ils se sont livrés. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une autocritique qui prend la forme d'une trahison, c'est une autocritique qui prend la forme plutôt d'une continuation de la critique sociale par des moyens qui ont changé, mais toujours en vue des mêmes fins. Donc selon ces intellectuels, c'est mai 68 qui a en partie instauré le climat culturel favorable à l'obsolescence de la norme éthico-politique traditionnelle. C'est-à-dire que la sortie de ce qu'on appelait la société disciplinaire, qui était celle d'avant les années 60, s'est manifestée par la montée collective dans les années 70 d'une sorte d'affirmation de soi et d'une volonté de faire reculer toute entrave à l'émancipation. D'où, à partir des années 70, l'émergence d'un paradigme de la résistance aux institutions, du détournement des pratiques de pouvoir et des contrôles qui peuvent s'exercer sur la vie privée et qui sont tous brusquement devenus complètement intolérables. Avec, derrière cette émergence du paradigme de la résistance ou du détournement, l'utopie d'une souveraineté individuelle comme possibilité d'un autre choix face à des normes qui sont toujours perçues comme un pouvoir de normalisation et des lois qui sont perçues, elles, comme des formes de domination, de manière systématique. La loi et la norme se sont donc retrouvées affectées d'un sens péjoratif, et il est devenu légitime a priori de toujours rechercher à les contourner, à leur résister, quel que soit leur contenu. On est donc passé, dans les sociétés postmodernes, à des formes d'existence sociale qui sont basées, c'est un vrai paradoxe de nos sociétés, qui sont basées en bonne partie sur la transgression, ou en tout cas sur une valorisation de la transgression. Dans ce contexte, comme l'ont montré deux sociologues, Luc Boltanski et Eve Capello, dans un livre dont je vous conseille la lecture qui s'appelle « Le nouvel esprit du capitalisme », l'intégration par le management des idéaux de mai 68 a conduit à une réorganisation en profondeur des systèmes d'organisation du travail, et notamment, dans le monde du travail, à l'affaiblissement des postures d'autorité. C'est-à-dire que l'autorité comme capacité de commandement, de donner des ordres, qui était lisible notamment dans les organigrammes hiérarchiques qui étaient de forme pyramidale, s'est vue reléguée au second plan, attention, je ne dis pas qu'elle a disparu, elle s'est vue reléguée au second plan, au profit d'une organisation plus horizontale, en forme de réseau, qui repose sur la concertation entre les acteurs, leur mise à égalité relative, et sur leur implication psychologique. Ce fonctionnement managérial ne repose plus tant sur l'émission d'ordre ou sur l'obéissance, que sur la formulation de missions transversales, ou bien encore de projets, qui sont traitables par la délibération collective en petites équipes, d'où l'impression d'un gain réel en liberté et en démocratie. Mais le problème, c'est que cette réorganisation cache le fait que l'autorité, c'est pas seulement le commandement, étymologiquement, l'autorité, c'est aussi la responsabilité. L'autorité, c'est aussi le fait d'être auteur d'un acte, de pouvoir en répondre, de pouvoir l'assumer. Or, les pouvoirs dans le monde entrepreneurial n'ont pas disparu dans cette réorganisation, ils ont simplement été redistribués. L'aplatissement des organisations et des organigrammes a en fait permis d'invisibiliser les pouvoirs qui restent présents à l'intérieur de la structure de l'entreprise, de l'administration. Mais simplement, ces pouvoirs sont répartis dans la nouvelle structure réticulaire en forme de réseau de ces organisations, et ils sont distribués tout aussi inégalement qu'auparavant, et cette fois présents sous forme de nœuds à l'intérieur du réseau. Sans compter, je le disais, la persistance toujours du schéma pyramidal qui est en fond, en filigrane. Cette réorganisation a permis que les instances de pouvoir n'assument plus la dimension de l'autorité symbolique et qu'en fait elles la reportent sur les subordonnés eux-mêmes, pour qui elle devient un poids et une souffrance. Et là-dessus, il y a un sociologue qui a écrit des choses assez précises et frappantes, qui est Alain Ehrenberg, où il montre bien comment, en fait, tous les systèmes organisationnels, administration, entreprise, etc., font reporter la responsabilité du commandement sur les niveaux inférieurs, se délestent en fait de l'autorité symbolique ou la sous-traitent aux subordonnés. Mais en dehors de cette question de l'autorité symbolique, ce que les salariés vivent aussi, dans le monde de l'entreprise comme dans celui des administrations d'État, c'est l'autorité impersonnelle des nécessités techniques, des nécessités pratiques. C'est-à-dire que ce sont les contraintes du fonctionnement elles-mêmes qui commandent un certain type de décision et d'actes. Et les dépositaires de l'autorité en régime post-moderne, en ce sens, ne font que relayer les exigences des contraintes techniques et vérifier l'application des règles. Et il est d'autant plus difficile de contester cette forme d'autorité qu'elle se prévaut d'un idéal apolitique, d'efficacité ou de pragmatisme. Et donc finalement, c'est toujours au nom du réalisme ou de la réalité qu'agit le manager, le décideur ou tous les autres dépositaires de la norme postmoderne. La réalité économique et technologique en vient du coup à assumer le même statut que la nature dans les sociétés traditionnelles, c'est-à-dire un système de lois qui est inquestionnable, qui est inébranlable, auquel chacun doit obéir, qui gouverne les existences et auquel il faut en fait se plier. Et on oublie par là que cette réalité sociale est le produit non pas de lois qui existent de toute éternité, mais d'une suite et d'un ensemble de décisions et d'actes prémédités venant d'êtres humains, et en particulier que cette réalité est le produit d'actes politiques en ce qu'il vise le gouvernement des collectivités humaines. En ce sens, l'économie et la technologie sont devenues une sorte de seconde nature pour beaucoup de nos contemporains, pour beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire que l'économie et la technologie sont devenues beaucoup plus que des moyens au service d'une fin, ils sont devenus un monde englobant dans lequel chacun évolue sans le remettre en question, en obéissant à des lois qui sont ressenties comme inviolables. Et c'est ce que Marx, entre autres, avait mis en relief en démontant la pseudo-neutralité ou la naturalité des rapports économiques entre les êtres humains, et en ajoutant au terme « économie » l'adjectif de « politique » dans l'expression qui est en fait le titre d'une de ses œuvres, « Critique de l'économie politique », pour montrer que l'économie moderne est tout sauf naturelle, qu'elle est le produit de décisions politiques et qu'elle possède dans chacune de ses orientations un sens et une portée politique. D'où la deuxième question programmatique que posent les auteurs auxquels je me réfère. Que faire ? Et une partie de la réponse qu'ils y apportent, bon, le temps me manque là pour essayer de déplier la réponse qu'ils apportent dans toutes ces dimensions, mais une partie de la réponse pour eux est de reprendre le projet critique moderne, et notamment celui de Marx, là où il s'était interrompu, c'est-à-dire de faire avec la technologie ce que Marx avait fait avec l'économie. Pour dire ça autrement, produire une critique de la technologie politique qui interroge en fait les choix politiques qui sont derrière les objets, les dispositifs et les procédures qui se déploient sous nos yeux. Et à ce moment-là, poser la question, quels sont le sens et les conséquences politiques d'un ordinateur, d'un réseau social comme Facebook, du management, tous étant des technologies politiques. Poser la question de cette manière implique aussi de reposer à nouveau frais la question de la norme. Et c'est là-dessus que je finirai en conclusion. On a vu en introduction tout à l'heure que la question de la norme a été reformulée par les modernes dans le sens d'une autolimitation de la société, d'une autolimitation sur le plan moral ou politique, une autolimitation qui est décidée par et pour la collectivité. Dans ces conditions, et c'est ce qu'avancent ces auteurs, et ça sera aussi ma conclusion, ce qui devient pensable en fonction de critères éthiques et politiques, et dans les conditions du débat démocratique, c'est une autolimitation économique et technologique des sociétés contemporaines. Voilà, je vous remercie pour votre attention.